Merci Alice Marot, on vous retrouve à midi pour un nouveau point sur l'actualité.
Joyeux Noël à tous.
Je peux goûter comme ça ?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Kurnonski, le fameux gastronome, disait
« La France a toujours été et reste toujours le pays de la qualité, car la France a autant de cuisine locale qu'elle a de province. La variété de nos plats régionaux résume et reflète, pour ainsi dire, la diversité unique au monde des aspects de la France. L'an dernier, une jeune Américaine qui venait de faire son voyage de noces en France me dit « On voudrait habiter tout votre pays. Je l'eusse volontiers embrassé si j'avais eu 50 ans de moins. »
Ah, Kurnonski et sa verve enflammée, son lyrisme cocardier et ses manières d'un autre temps. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster et joyeux Noël à tous. En ce 25 décembre, le 12 octobre 1872, il y a 150 ans, naissait celui qui deviendra Kurnonski, l'un des gastronomes les plus imposants, dans tous les sens du terme, de notre histoire. À l'occasion de la commémoration de sa naissance, on va vous faire redécouvrir cet écrivain, critique et chroniqueur, étrangement tombé d'ailleurs aux oubliettes, alors qu'il fut une personnalité adulé, célébré en son temps pour son œuvre pléthorique sur notre patrimoine culinaire, mais aussi pour sa culture, ses bons mots. Et celui qui connaît bien sa vie, son œuvre, ses goûts, éventuellement aussi ses aphorismes, n'est autre que notre historien maison, Loïc Bienassi. Bonjour.
Bonjour, joyeux Noël.
Merci, joyeux Noël Loïc. Vous êtes chercheur à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation qui dépend de l'Université de Tours, IEHCA. Vous vous êtes replongé pour nous dans l'œuvre de Kurnonski et même dans des archives sonores pour mieux brosser pour nous le portrait de ce personnage, figure étonnante. Hein.
Et attachante aussi, je trouve, qui en effet, j'ai envie de dire, c'est l'esprit boulevardier en fait qui s'exprime avec lui, appliqué à la gastronomie.
Et on va vous en faire, chers auditeurs, une démonstration. Vous allez voir, c'est effectivement un personnage attachant et truculent. Kurnonski aimait tous les terroirs de France, mais il avait une région de cœur, Lyon. On en parle avec Marie-Victorine Manoa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la chef cuisinière de Haut Lyonnais, un bouchon qui fait beaucoup parler de lui. C'est un bouchon historique de Paris, racheté par Alain Ducasse en 2002. Vous êtes aux manettes de ce bouchon. Vous avez d'ailleurs aussi des origines pas très loin
exactement,
de Lyon.
Exactement, hein. Un petit peu lyonnaise.
Un peu seulement ?
Un peu complètement lyonnaise.
C'est ça, un peu
depuis plusieurs générations.
C'est ça, et vous pratiquez une très belle cuisine lyonnaise. Vous avez préparé pour nous des recettes qu'appréciait énormément Kurnonski. Lyon, région de cœur, mais Kurnonski avait aussi une région de naissance à laquelle il demeurait enraciné, c'est l'Anjou, que l'on explore à travers une appellation avec Jérôme Gagnès. Bonjour.
Bonjour à tous et joyeux Noël.
Merci, joyeux Noël Jérôme. On joue la surprise ?
Oui, on joue la surprise. Ah. C'est l'un des 5 grands blancs qu'avait consacré Kurnonski.
Vous nous en dites plus tout à l'heure. Elvira Masson nous accompagne tout au long de cette émission. Bonjour Elvira.
Bonjour à tous et toutes. Moi, je vous emmène voir des natures mortes, mais très vivantes, dans le cadre d'une exposition aussi pléthorique que l'œuvre de Kurnonski.
C'est ça, on s'éloignera un peu de Kurnonski. Vous nous emmenez au musée à travers une expérience pour laquelle vous avez eu un énorme coup de cœur. Peut le dire. Pour interagir en direct dans l'émission, il y a notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou bien le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Et pour retrouver tous les contenus de notre émission, nos chroniques, nos adresses, nos recettes, nos coups de cœur, nos podcasts, franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Et d'où vous est venu votre goût de la gastronomie ?
D'une bonne vieille cuisinière qui est restée chez nous pendant 57 ans, Marie Chevalier, à qui je tiens à rendre hommage, et qui faisait la cuisine simple que j'adore, la cuisine de femme pour laquelle j'ai une prédilection particulière.
Elle n'a jamais quitté votre famille, cette brave dame.
Mais elle est même enterrée dans notre tombe.
C'était un extrait de La joie de vivre, une émission radiophonique de la RTF, diffusée quand même le 15 mars 1953, animée par Jacqueline Joubert et Henri Spade, qui avait pour invité ce fameux Kurnonski, qui était quand même âgé à l'époque, en 53, de 80 ans. Et cette émission a été rediffusée sur France Culture en 2016. On vous a indiqué le lien sur franceinter.fr à la page « On va déguster ». Kurnonski, cher Loïc Bienassi, raconte donc qu'une femme était nourrice, nourricière. Elle aurait eu, cette fameuse femme, un rôle déterminant dans son éveil au goût.
Kurnonski, en fait, avait été surtout élevé par sa grand-mère. Et lorsqu'il s'est installé à Paris avec sa grand-mère, cette cuisinière les a suivis, d'ailleurs. Donc, c'était une fidèle parmi les fidèles, il le dit, enterrée dans le tombeau familial, et qu'il le tutoyait, enfin, un membre de la famille, si on veut. Et c'est vrai qu'il le raconte souvent, cette anecdote d'une première initiation à la gastronomie grâce à cette cuisinière. Et on voit bien en quoi cette cuisine qu'il présente ici, finalement, correspond en effet au goût qu'il affiche même beaucoup plus tard, durant l'entre-deux-guerres, quand vraiment il est au sommet de sa carrière de critique gastronomique.
Marie Chevalier.
Tout à fait. Cuisine de femme, comme il le dit, cuisine ménagère, cuisine, j'allais dire, modeste, cuisine simple. Ça, c'est un leitmotiv dans ce que Kurnonski dit aimer dans la cuisine.
Mais qui était donc Kurnonski? Je pose cette question parce que c'est quelqu'un de presque assez inconnu. On peut même reconnaître très humblement que Marie-Victorine Manoa,
oui,
jeune
oui.
chef... Pourtant très cultivé.
Je ne le connaissais pas, donc voilà, c'est marrant parce que ouais, je suis lyonnais, j'ai fait une école de cuisine quand même à l'Institut Paul Bocuse, qui est une école réputée lyonnaise. C'est un gros mystère pour moi.
Gros déficit de visibilité concernant Kurnonski. Alors il y a des éléments objectifs, hein. On peut dire qu'il est né le 12 octobre 1972 à Angers, ça on va aller du côté de l'Anjou avec Jérôme Gagnès tout à l'heure, qu'il est mort le 22 juillet 1956 à Paris, c'est-à-dire 3 ans après l'émission qu'il faisait.
Hein, 83 ans. Donc,
qu'on entendait à l'instant, 83 ans. D'ailleurs, circonstances de sa mort un peu étranges.
Il est tombé de sa fenêtre, il était très diminué, il faisait régulièrement des malaises, il était quand même de toute façon très usé. Donc
Il habitait au 14 Square Henri Bergson, juste à côté de l'église Saint-Augustin. Il est effectivement mort d'une chute de la fenêtre de son appartement du 3e étage. Il y a d'ailleurs, pour les piétons parisiens, une plaque, hein, ici vécu et mouru, Maurice Edmond Saillant,
oui,
dit Kurnonski, cela signifie que Kurnonski est donc un pseudonyme.
C'est un pseudonyme. Alors, il arrive à Paris en 1891. Il devait poursuivre des études, il ne le fera pas. Il commence rapidement à fréquenter le milieu des lettres. Et j'ai envie de dire, son entrée dans le monde des lettres, c'est en 1893. Le 23 mars 1893, Émile Zola vient d'échouer une nouvelle fois à l'Académie française. Maurice Saillant lui adresse une lettre. D'abord, pour j'ai envie de dire, le réconforter, une lettre ouverte qui est imprimée dans Le Journal, le nom du journal, le 24 mars 1893, et lui demander aussi de poursuivre la saga des Rougon-Macquart. Et cette lettre est signée Maurice Kurnonski. Alors pourquoi Kurnonski? Kurnon en latin, ça signifie pourquoi pas. Apparemment une expression que Maurice Saillant appréciait, et un ski qui renverrait à la Russie parce que, j'allais dire, la Russie était à la mode à ce moment-là. Un traité d'amitié venait d'être signé l'année précédente. Donc peut-être, surfant sur cette vague de russophilie, s'est amusé à créer ce pseudonyme. Mais créer un pseudonyme, c'était finalement très banal dans le monde des lettres à ce moment-là. Et ensuite, une explication qu'il avance, c'est aussi que se lancer justement dans une carrière d'homme de lettres n'était pas nécessairement bien vu de sa famille bourgeoise, angevine, traditionaliste, et que, voilà, il dissimulait un peu son identité. Et beaucoup plus tard, il s'estimait assez prisonnier d'ailleurs de ce pseudonyme, ne pouvant plus ne pas signer Kurnonski, ce qu'il déplorait à la fin de sa vie. En fait.
L'histoire de la gastronomie retient que Kurnonski fut nommé le prince des gastronomes. D'abord, on a envie de savoir pourquoi il était surnommé prince des gastronomes. Et deuxièmement, pourquoi il est arrivé finalement aussi tard à cette carrière d'écrivain et de journaliste gastronomique?
Alors oui, en fait, la partie gastronomique de sa carrière, elle commence après la Première Guerre mondiale, donc il a quasiment 50 ans. Et la première partie, c'est au contraire une carrière littéraire. Il a beaucoup écrit et souvent il était nègre, notamment nègre de Willy, hein, le fameux Willy de Colette. Mmh. Il a signé des romans avec lui, pour lui, beaucoup d'articles aussi. Il faut quand même savoir qu'au total, dans toute sa carrière, Kurnonski, il a sans doute rédigé environ 70 ouvrages. Il a aussi publié peut-être un millier de chroniques. Alors, justement, pas que gastronomique. La première partie de sa carrière, c'est une carrière de chronique humoristique, de chronique de music hall, de critique. Donc voilà, ça, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est ça, en fait, qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il se fait connaître. C'était vraiment quelqu'un de connu à Paris, dans le milieu littéraire. Mais c'est une carrière qui, en effet, n'avait rien à voir avec la gastronomie. Et puis, finalement, dans un deuxième temps, donc après la Première Guerre mondiale, il va se lancer dans une grande aventure éditoriale avec Marcel Rouff, un autre auteur, alors qui là encore n'avait pas encore publié un grand roman consacré à la gastronomie, qui s'appelle La vie et la passion de Dodin Bouffant. Mm-hmm. Quoi qu'il en soit, Marcel Rouff et Kurnonsky se lancent dans une sorte de voyage en France à partir de 1920.
À la faveur de l'essor de l'automobile qui permettait aussi de décloisonner en quelque sorte un certain nombre de terroirs.
Absolument. C'est-à-dire que cette France gastronomique qui va être publiée de 1921 à 1928, Kurnonsky parlait de la Sainte Alliance du tourisme et de la gastronomie. Mm-hmm. C'est un slogan qu'il a employé toute sa vie. Et bien là, c'est vraiment ce qu'illustre cette entreprise. Il se balade avec Rouff dans toutes les régions de France. Alors, il ne faut pas imaginer des petites fiches restaurants. Non, c'est très rédigé. Ils vont dans une auberge, racontent une anecdote, expliquent comment, ce qu'ils ont pu y manger, mais quelque chose de très vivant. Alors, il y aurait dû y avoir 32 volumes, et il y en aura 27 au final. Mm-hmm. Toutes les régions n'ont pas été passées en revue. La Corse ne l'a pas été, par exemple. Le Languedoc non plus, et la Picardie non plus.
Donc, œuvre colossale, mais inachevée.
Et voilà, exactement. Mais par contre, quelque chose qu'on a du mal à mesurer aujourd'hui, de très novateur. Parce qu'en fait, il existait des guides sur les restaurants parisiens, il existait des guides touristiques sur la France, même le Michelin, qui donnait quelques, à ce moment-là, on est au début des années 20, quelques notations culinaires gastronomiques, rien à voir avec le Michelin actuel encore. Là, c'est la première fois qu'un guide proprement, purement gastronomique, balaye l'ensemble du territoire français.
Il a par ailleurs collaboré avec Michelin ?
Alors, c'était avant 14-18.
D'accord.
Une rubrique qui s'appelait « Les lundis de Michelin », qui, justement, était, évidemment, visée à la promotion de Michelin, que Kurnonsky avait imprégné de son esprit humoristique, de ses jeux de mots, de tout ce qui faisait le sel de son écriture. Et c'est révélateur de sa génération. C'est-à-dire que c'est la génération de l'automobile. On présente facilement Kurnonsky comme quelqu'un d'assez conservateur, mais en même temps, il faut bien voir que c'est tout à fait novateur, sa démarche. C'est-à-dire qu'on est dans quelqu'un qui défend la cuisine des terroirs, il n'emploie pas ce mot-là, la cuisine des terroirs, mais en même temps, ce qui lui permet de défendre cette cuisine et ce qui crée la promotion de cette cuisine, c'est l'automobile, c'est le progrès technique.
Il a d'ailleurs inventé le néologisme de gastronomade.
Tout à fait, je pense qu'il l'invente en 1927, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un des, là aussi, un de ses gimmicks, un de ses mots-clés qu'il emploie tout au long de sa vie.
Sa postérité, alors, il est clair qu'une majorité de nos auditeurs n'ont quasiment jamais entendu parler de ce nom, ont du mal à le situer d'ailleurs dans l'histoire de notre gastronomie. Il existe pourtant des lieux à son nom, une rue à Paris.
Il existe aussi une société des amis de Kurnonsky, il existe des recettes qui portent son nom. Enfin,
il existe un prix. Prix Kurnonsky, récompenser des journalistes gastronomiques. Hein. Moi, j'ai eu l'honneur de le recevoir en 2014, le prix Kurnonsky. Il y a également une place à Angers qui porte son
nom. Tout à fait. Et puis, j'ai envie de dire, là, on est en train de lui consacrer une émission. Donc, je veux dire, on se souvient de lui quand même. Moi, je crois que ça tient à la nature même de son domaine. C'est-à-dire que un critique, je ne sais pas si c'est le bon mot pour parler de lui, mais un auteur gastronomique parle du présent. J'ai envie de dire, quelle que soit la qualité de sa plume, et Dieu sait que la plume de Kurnonsky était agile.
Et truculente.
Oui, et puis plaisante à lire, toujours aujourd'hui. Ce dont il nous parle, c'est quand même une actualité. Des auberges, des gens, des portraits. Et donc, le relire 50 ans plus tard, quand on n'est plus dans cette actualité, ça reste difficile. Je pense que c'est ça qui nuit à sa postérité.
L'œuvre de Kurnonsky reste donc très attachée à une époque. Et le nom Kurnonsky a également laissé sa trace dans notre répertoire gastronomique. Il y a des recettes et des apprêts qui portent son nom. Allez, un petit exemple.
Les médaillons de veau Kurnonsky. Coupez des truffes en julienne. Faites-les revenir au beurre. Ajoutez de la crème fraîche et faites réduire l'ensemble. C'est la sauce. Dans un carré de veau, taillez des médaillons, 150 grammes par personne, et sautez-les au beurre clarifié. Recouvrez-les de pointes d'asperges cuites, elles-mêmes nappées de sauce aux truffes. Un paillasson de pommes de terre permettra de ne rien laisser perdre de la sauce.
On va déguster.
Merci à Frédéric Milano, réalisateur dans la maison. Ça vous fait envie, Marie-Victorine Manoa, ces médaillons de veau à la Kurnonsky, pointe d'asperges, une très belle sauce truffée.
C'est très marrant parce qu'asperges et truffes, quand même, c'est deux saisons assez opposées quand même.
Ah,
donc on reconnaît
d'accord.
Vraiment les vieilles recettes qui sont, on comprend pas, beaucoup de crème, beaucoup de protéines, des parfois des produits qui s'assemblent qui devraient pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, elles sont un peu réajustées, rafraîchies, mais évidemment que ça reste des plats gourmands de chez nous. voilà, je suis pas très surprise de cette recette-là. Je ne la connaissais pas encore.
Voilà, une petite pique balancée par Marie-Victorine Manois. Et c'est une remarque tout à fait pertinente. Asperges, truffes, on est quand même dans deux saisons opposées.
Et ce qui est curieux, c'est que Kurnonski, comme le disait Loïc, bien assis, professe un amour de la simplicité. Il se plaint un petit peu de la truffe et des produits qu'on met partout.
Mais la recette est très simple.
Et là, finalement, il met de la truffe quand même.
Il faut savoir que la truffe, à l'époque, n'avait pas le prix d'aujourd'hui, pas la rareté d'aujourd'hui. D'accord. Si on parle de l'avant-guerre, il y avait de la truffe. Qui a été détruit après-guerre, justement. C'est pas forcément, je pense, que la complexité des produits, mais plutôt de la réalisation. Et en l'occurrence, quand on écoute, c'est truffe, crème, veau, quoi. Enfin, c'est quand même relativement simple.
Tout à fait, je pense que c'est là, la simplicité, elle est là, dans la réalisation.
Et on va voir justement qu'il était épris de simplicité. C'est ce qu'on commence à dévoiler avec Jérôme Gagnès. C'est Stéphane Ronxin qui réalise l'émission avec Benjamin Troncin, Fabrice Rivaud pour la préparation, Djoubaka pour la programmation musicale dans un instant. Bah, d'ailleurs, il y a la plaque de cuisson qui est en train de chauffer. Il y a Marie-Victorine Manoa qui entre en scène. Oui, car on va évoquer la passion lyonnaise de Kurnonski.
There's wine to warm the middles now, and get your head a whirl. Around and round the room we go, the room we go, the room we go. Around and round the room we go, so get yourself a girl. Now every heart will start to tingle when sleigh bells jingle on Santa's sleigh. Christmas polka, let everyone be happy and gay. Oh, it's the time to be jolly and deck the halls with holly, so let's have a jolly holiday. Come on and dance a merry Christmas polka, another joyous season has begun.
The Andrew Sisters, chers auditeurs, pour vous souhaiter un joyeux Noël, c'était The Merry Christmas Polka, un titre très 25 décembre, ce titre date quand même de 1949, on imagine bien d'ailleurs Kurnonski entamer un petit pas de danse. Kurnonski, l'écrivain et critique gastronomique dont on dresse le portrait aujourd'hui avec notre historien Loïc Bienassi.
Nombre de grands gastronomes et des plus notoires considèrent l'illustre ville de Lyon comme la capitale de la gastronomie mondiale. Et c'est là, peut-être, en effet, que s'entretient avec le plus de ferveur le culte de la bonne chère. La caractéristique commune de l'art grec et de l'art français, c'est qu'ils ne visent jamais à l'effet. La cuisine lyonnaise atteint naturellement et sans effort ce degré suprême de l'art, de notre art français, la simplicité. Ces créations ? Le gras double lyonnais, la poularde au gros sel, la poularde demi-deuil, les quenelles de brochet, la matelote lyonnaise, le saucisson lion chaud aux pommes de terre, les fonds d'artichaut au foie gras, cent autres charcutailles et spécialités. Et il faut admirer le soin pieux, l'honnêteté foncière qui préside à la confection de ces merveilles.
Merci Loïc pour cette lecture d'un texte tiré de quelle œuvre ?
Atlas de la gastronomie française de 1938, alors de Kurnonski. L'un de ses nombreux ouvrages. Alors, évidemment, c'est un ensemble de cartes et lui rédige tout un tas de textes, région par région, encore une fois. J'allais dire, il a souvent aussi réécrit un peu la même chose que dans ce qu'il faut dire, ce qui est. Il avait une sorte de fond de commerce et il avait la plume tellement facile, il reprenait. C'est pour ça qu'il avait toujours ses citations, ses gimmicks et ses expressions.
Mais on peut considérer quand même que ce texte constitue, avec bien d'autres d'ailleurs, une véritable déclaration d'amour pour la ville, accessoirement ma ville natale, hein, mais je veux pas tout ramener à moi, évidemment, mais on a ça en commun avec Marie-Victorine Manois, la ville que l'on surnomme aujourd'hui, à juste titre, la capitale des gueules.
Oui, et puis c'est lui qui, à travers différents ouvrages, et notamment la France gastronomique dont je parlais, là, ce Tour de France, eh bien, il a consacré deux volumes à Lyon et aux Lyonnais, et il le dit, Je me permets encore une citation. « Lyon, nous n'hésitons pas à le dire, à l'écrire et à le proclamer, est la capitale gastronomique du monde. »
Et là, il y a
donc cette notion de capitale gastronomique, voilà, justement, mais ça date de cette époque, l'idée de Lyon, capitale gastronomique.
D'accord avec Kurnonski, Marie-Victorine Manoff.
Non, mais moi, j'ai pas un avis très objectif. Je suis lyonnaise et je fais de la cuisine lyonnaise toute la journée. Donc, mais j'entends peut-être la diversité des produits. Ce qui est intéressant, c'est entre le lyonnais, le monde des lyonnais, on a des sortes de mini-saisons qui se font à 15 jours, on a les petits pois qui sortent en bas. Et dans les mondes des Lyonnais, ça arrive 15 jours après. C'est très riche, Lyon et les alentours. Le Beaujolais, la cueillette, le gibier, la cochonaille. On a les poissons de rivière sublimes qu'on connaît très peu, mais qu'on travaille beaucoup à Lyon. Voilà.
Et puis aussi les mers lyonnaises, et puis aussi des commerces de bouche complètement exceptionnels.
C'est marrant,
depuis toujours.
Il parlait tout à l'heure des mers, mais à Lyon, on n'a pas appelé ces femmes des chefs. On aurait pu le faire. Enfin, pourquoi pas? Je pense que ça n'a pas été les premières femmes à entre guillemets prendre les rênes d'un restaurant, mais il y a le côté nourricier, effectivement, maman protecteur de la mère, et je trouve ça plutôt joli.
Loïc, chère Marie-Victorine Manoa, vous a transmis quelques recettes lyonnaises citées par Kurnonski, et là vous avez fait tilt sur une première recette à base d'un crustacé de rivière qui, il faut bien le dire, est très présent dans le répertoire lyonnais.
Les écrevisses.
Ouais.
Alors, nous, à Lyon, on travaille des poissons de rivière et il y a de quoi faire. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire une recette à base d'écrevisses. C'est notre crustacé à nous. Il y en a dans toutes les recettes qui se respectent, les recettes lyonnaises. Hein. On connaît tous la quenelle de brochet, sauce nantua, évidemment. Là, on a décidé de rafraîchir un petit peu. On a des belles écrevisses vivantes. Alors, moi, elles viennent de la Loire parce que le restaurant est à Paris. Donc, voilà, il y a aussi un souci de trajet et d'empreinte carbone, etc. Donc, voilà, on a de très belles écrevisses vivantes de la Loire.
Oui.
Ici. On a fait une huile avec les têtes. On a fait une petite bisque pour alléger la mayonnaise parce qu'aujourd'hui, on allège un peu en des protéines.
Oui, parce que c'est une rémoulade.
Exactement, ouais. C'est une rémoulade.
Avec une mayonnaise très légère, toute
exactement.
Fine.
Exactement. Rémoulade. De céleri, avec des voiles de céleri confit dans l'huile de tête d'écrevisse un peu cardinalisée, comme ça, avec un bon goût torréfié.
Oui.
Et la bisque pour remplacer un peu cette huile de la mayonnaise, une mayonnaise à la bisque.
C'est extraordinaire. Et frais. Voilà, preuve que l'on peut retrouver toute la profondeur de l'écrevisse, sa sapidité, les têtes que l'on utilise, notamment dans la bisque ou dans la fameuse sauce nantua qui accompagne les quenelles de Lyon, pardon, les quenelles de Lyon. Mais preuve que l'on peut utiliser l'écrevisse aujourd'hui de manière très actuelle.
Exactement.
En la fusionnant avec un céleri rémoulade.
Et puis frais, peut-être un peu moins de réduction de crème, laisser place au goût du produit, un petit peu plus pur. On a fait des capres avec les bourgeons de la saison, on rajoute des écrevisses qui sont peut-être un peu moins cuites. Voilà, moins de réduction, plus de fraîcheur. Aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on a envie de manger.
Et pour se fournir en écrevisses à la maison, on fait comment, si on a envie de faire ça?
C'est une très bonne question. Certains poissonniers en font sur commande. Alors, on n'en trouve pas très facilement, c'est vrai. Moi, j'ai mes fournisseurs voilà, au restaurant. Sur commande, certains le font.
Et ouais. C'est cher?
C'est moins cher qu'une langoustine. Entre 20 et 30 euros le kilo.
Franchement, c'est un crustacé plutôt accessible. Et en plus, on peut même aller à la pêche pour cueillir
exactement.
Cette écrevisse américaine qui ouais. fait des dégâts dans nos biotopes.
Alors,
et
malheureusement,
nos écosystèmes
il y en a plus
de rivières.
C'est vrai, mais
voilà. Loïc,
oui.
Vous aimez?
Il y a beaucoup de légèreté. Moi, je trouve que c'est ça que... Non, pardon, j'étais en train de manger.
Est-ce que, non, j'allais vous demander si Kurnonski aurait apprécié cette recette.
Quand on pense Kurnonski, on pense terroir, cuisine régionale. Et il y a un côté, on a presque l'impression un peu désuet. Mais au final, cet hymne à la simplicité, je ne vais pas dire que c'est moderne, ce n'est pas un mot que j'aime nécessairement, mais il y a quand même quelque chose qu'on retrouve lorsqu'on décrit un plat comme celui-ci. C'est-à-dire cette idée de la cuisine, c'est lorsque les choses ont le goût de ce qu'elles sont, a-t-il écrit. Et d'ailleurs, il a dit que c'était particulièrement vrai à Lyon, encore un compliment adressé à Lyon.
Mmh.
Et ce type de plat, on est exactement là-dessus.
Certains de nos auditeurs, Loïc Bianassi, nous demandent à quoi ressemblait physiquement Kurnonski. Est-ce qu'on peut avoir une idée de sa corpulence? C'est vrai que quand on entend sa voix... on imagine quelqu'un, on va dire, de bien enveloppé.
C'était le cas, il a pesé jusqu'à 120 kilos, c'était vraiment quelqu'un de tout en rondeur, réputé pour être un gros mangeur. On le soupçonnait parfois, notamment à Lyon, pour continuer d'être un peu un pique-assiette. C'est-à-dire finalement, être d'abord un jouisseur, et je pense que c'était quand même assez vrai, c'est-à-dire qu'il avait encore une fois, cette plume facile, il en vivait bien... Et la gastronomie lui fournissait ce plaisir de manger partout. Et il en profitait physiquement, ça c'est incontestable.
On disait qu'il vivait de façon très simple dans un appartement au 14 Henri Bergson, comme on l'a dit, dans le 8e arrondissement de Paris, avec une salle à manger assez modeste et pas de cuisine. Est-ce vrai ça? Vous avez pu vérifier ou pas?
Non, j'ai pas vérifié. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne cuisinait pas. Même la première partie de sa vie où il n'est pas encore auteur gastronomique, il vit... Au restaurant, tous les soirs, il ne cuisine jamais, il mange toujours à l'extérieur. Donc, le goût pour la cuisine, il l'avait là.
D'accord, donc on pourrait le qualifier de gastronome passif.
C'est ça, on peut dire ça.
Dans un instant, Marie-Victorine Manois, une autre recette lyonnaise, piochée également dans l'inventaire de Kurnonski. Il va être question de foie blond. Ah là là, ça c'est une recette qui me parle. Vous avez quelques minutes pour nous la préparer, si ça vous va.
Allez.
Vous avez même le droit de vous mettre sur la plaque de cuisson. Et en attendant, bah justement, je vous propose un petit jumelage. On va partir de Lyon et on va aller jusqu'en Anjou, puisque c'était la région natale de Kurnonski. Il est né à Angers en 1972. Région chouchou donc de notre célèbre gastronome né il y a 150 ans. Jérôme Gagnaise fait couler cette région dans nos verres à travers une appellation mystère.
On va déguster.
Il n'y a pas de vin qui résiste au vinaigre de la salade, même quand c'est du citron.
Sur France Inter.
Est-ce que vous êtes d'accord, Jérôme Gagnaise ? Il n'y a pas de vin qui résiste au vinaigre, même quand il s'agit de citron ?
Je souscris à la première partie de cette assertion, moins à la seconde.
C'est-à-dire ?
Ça relève d'une expérience personnelle. Alors évidemment, le vinaigre est l'ennemi total, absolu, irréductible et définitif de tout vin.
Donc là, vous donnez raison
donc
à Kurnonski.
Donc ça, de toute façon, il n'y a pas de débat de ce point de vue-là. En revanche, sur le citron, je m'inscris en faux. Moult vins aujourd'hui constituent des accords très intéressants avec le citron. Il ne s'agit pas d'accorder un verre de jus de citron avec un verre de vin. En revanche, il m'arrive l'été notamment de faire beaucoup de salades composées avec des tas de légumes crus, éventuellement parfois un petit peu de thon, ce genre de choses, ou quelques poissons.
Bah, racontez-nous votre vie. Hein.
On veut une recette.
Oui, c'est ça.
Ah, ça, je peux vous en donner plein, parce que j'en fais beaucoup.
Mais vous savez que c'est un fou furieux de la salade.
Contre toute attente.
On a eu des débats vinaigrettes qui ont duré des heures.
Je suis très très fan de salade. Si j'ai envie de boire un vin blanc ou goûter, parce que j'ai un truc à goûter, je remplace le vinaigre par le citron, je mets une huile d'olive un peu ardente et basta, sel, poivre. Et ça fonctionne très bien. Donc là, de ce point de vue-là, je m'inscris un peu en faux. Alors maintenant, nous arrivons dans la région natale de notre ami Kurnonski, de ce bon Maurice, et nous allons à 15 km au sud-ouest d'Angers, au bord de la Loire.
On chauffe.
Rive droite de la Loire.
D'accord.
Et nous sommes dans une appellation qui s'appelle Savenières.
Vous l'aviez, Loïc, bien sûr.
Évidemment.
C'est une appellation absolument formidable. Alors, ça fait 200 hectares, c'est tout petit. C'est sur trois communes, La Poissonnière, Bouchemaine et Savenières. Donc, c'est une petite appellation, petite par la taille, grande par la renommée. C'est une appellation qui a été renommée depuis très longtemps, puisque ça remonte au 10e, 11e siècle, à l'époque où les moines locaux faisaient du vin particulièrement là. Ce vin était très prisé. Les coteaux de cette rive droite de la Loire étaient particulièrement prisés. Et c'est une appellation dont les coteaux regardent comme ça vers le midi, vers le sud, avec globalement, on va dire, des schistes. C'est la grande roche locale. Et puis aussi, à certains endroits, des terroirs un peu plus limoneux, donc des limons, et puis des sables éoliens, donc des sables qui ont été déposés par les vents. Alors, on produit là un vin uniquement blanc. C'est du chenin à 100%. Et autrefois, avant le phylloxéra, et même au début du XXe siècle, on faisait pas mal de vins liquoreux à Savenières, parce que les brumes de la Loire permettaient le développement du botrytis, elles le permettent toujours, mais sauf qu'aujourd'hui, les vins liquoreux ont un peu moins le vent en poupe, et puis on produit des très grands vins blancs secs à Savenières. Et alors, je vous parle aujourd'hui d'un domaine que je suis depuis longtemps, dont j'aime beaucoup la production et dont j'aime beaucoup le couple de vignerons. C'est Damien et Florence Laureau. Je les aime beaucoup parce qu'on discute souvent, c'est très intéressant, ils réfléchissent beaucoup à ce qu'ils font. Ils ont 6 hectares, c'est un petit domaine, c'est du grand et bel artisanat. Ils ont une cuvée qui s'appelle Le Bel Ouvrage. Je crois qu'on peut difficilement mieux résumer le travail de Damien et Florence sur ces 6 hectares à Savenières. Mmh. Alors, on goûte, vous avez dans vos verres, là, pour accompagner le gâteau de foie blond.
Ah, il a déjà divulgué la recette de
Marie-Victorine. Ah, pardon. Mais oui, mais parce que
gâteau
c'est notre
accord. De foie blond, gâteau.
C'est un accord. Je crois que là, on tient un accord qui est pas dégueu, les enfants. Je vous le dis. On goûte un Savenières qui est une cuvée qui s'appelle l'Alliance. C'est la première cuvée du domaine. C'est un 2020. J'ai choisi cette cuvée. C'est une appellation dans laquelle les vins sont plutôt relativement chers. Pour nos auditeurs, habituellement, je présente des vins qui sont plutôt en dessous de 15 euros. Mm-hmm. Là, c'est Noël. Je fais une petite exception. On est plutôt à 20 euros.
D'accord.
Au domaine.
On vous pardonne.
J'aime cette cuvée d'abord parce que c'est très bon. Et ensuite, de quoi ? Parce que dans cette cuvée, en fait, il y a les jeunes vignes du domaine et puis des jus que Damien et Florence sélectionnent pour leur propension à être prêts à être dégustés plus tôt. Et ce qui fait qu'en fait, il y a tous les terroirs de Savenières, tous les terroirs du domaine sont résumés dans cette bouteille.
C'est une photographie géologique.
Les schistes gréseux, les limons, les sables éoliens, les rhyolites et les spilites, parce qu'on peut en citer des roches en hit autant que vous en voulez. Et c'est ça qui est intéressant dans ce vin, c'est que il y a quand même, alors Damien dit c'est un baby Savenière. Mm-hmm. Il n'y a pas la profondeur, l'intensité d'un grand Savenière. Il y a tout de même tout ce qui fait Savenière. C'est-à-dire de l'intensité, de la densité, un peu de gras, une jolie fraîcheur, une acidité, quelque chose qui rappelle un peu le caillou chaud en finale. Donc vraiment, ce vin, il est suffisamment solide pour affronter de la gastronomie de façon assez sérieuse. Il est assez solide pour vieillir admirablement pendant 10 ans. Donc on tient là quand même finalement un super rapport qualité-prix de Savenière.
Wow.
Donc voilà, je vous
c'est vrai
laisse.
Que c'est très bon.
Mais oui, il y a une sorte de plénitude dans ce vin. C'est facile sans être vulgaire. C'est très accessible. Je trouve que c'est un vin qui se boit avec un grand bonheur. C'est une merveille.
Vous avez dit, Marie-Victorine Manoy, parfait, quand vous avez qualifié en fait l'accord entre ce Savenière débouché par Jérôme Gagnaise et la recette que vous nous avez apportée, une recette lyonnaise de plus, donc gâteau de foie blond.
C'est parfait, le gâteau de foie blond, c'est un monument de la cuisine pour moi, française et lyonnaise.
Mais quelle extase.
C'est délicieux, c'est, la sauce est à peine crémée, donc là on a vraiment le jus de viande. Gâteau de foie blond, donc le foie blond, c'est les volailles qui ont été un peu engraissées. Donc là, on est dans la période, hein, c'est Noël, c'est ce qu'on mange en ce moment. Quand on vous invite,
on le trouve surtout preuve que Lyon, effectivement, au cœur d'un beau terroir. Au nord de Lyon, dans
exactement.
Là, c'est la volaille de Bresse. Hein.
Dans la Bresse, exactement. Donc je vous invite vraiment toujours à prendre vos volailles pleines, parce qu'on a la surprise de trouver des foies d'une couleur incroyable, claire, et de faire d'une plus-value ce qu'on aurait pu ne pas servir, quoi, qui est le foie. Et là, on a un gâteau de foie blond donc, qui accompagnerait parfaitement la volaille à Noël. Avec le vin, c'est parfait. Enfin, à mon avis, l'accord est ouais. vraiment bien choisi. Enfin, on
n'a
pas fait exprès, mais c'est parfait.
Franchement, là, le vin a la puissance nécessaire.
Ouais. Oui, il n'est pas si baby que ça, finalement.
Non. Oui, je trouve que Damien, il faut pas dire que c'est un baby Savenière.
Non, il est même assez adulte. Hein.
Ouais, c'est vraiment un très beau vin.
D'ailleurs, vous allez resservir nos verres, c'est Noël. Hein. On a
oui,
le droit de boire.
Je vais vous resservir. Je termine juste en vous redonnant les références exactes du vin. C'est un Savenière cuvée L'Alliance 2020 du domaine Damien et Florence Laureau. Et vous aurez toutes les infos sur la page de l'émission, notamment il y a une boutique en ligne.
Pour ceux de nos auditeurs et auditrices qui n'ont jamais entendu parler du gâteau de foie blond, quelle définition on pourra en donner? Ça ressemble un peu à une royale, non?
Ça ressemble un petit peu à une royale. Alors, il y a plusieurs façons de la faire. Certains chefs ou certaines personnes mettent de la farine dedans et font vraiment cette espèce de gâteau avec une consistance plus épaisse, plus gâteau. Moi, je l'aime en royale. J'ajoute de la moelle dedans, un peu façon Alain Chapelle qui, justement, faisait ce gâteau. Moi, je reproduis sa recette.
Ah, c'est carrément la recette d'Alain Chapelle.
Alors, c'est la recette d'Alain Chapelle. Parce que pour moi, j'en ai fait depuis petite et c'est vraiment la recette que je préfère.
Là, vous évoquez un monstre
sacré. On a du lait, ce qui fait une texture un peu cassante et non pas grasse.
Wow.
Donc ça, c'est vraiment le lait et c'est une cuisson douce avec des bons œufs de ferme. C'est important pour faire tenir le lait et que ça tranche pas, un petit peu de moelle. Et
ça cuit comment? Ça cuit au bain-marie?
On cuit ça en bain-marie. Oh, moi, je cuis ça fou, en fait comme une crème brûlée ou une crème caramel au four, au bain-marie, dans des petits moules. On peut faire ça plus ou moins gros. On peut partager sur la table même.
Il faut que ce soit bien poivré et bien aillé.
Bien poivré. Moi, j'adore l'ail, donc bien aillé, ouais.
Avec un fondant
c'est dément,
et une intensité et une sapidité
c'est
absolument
diabolique.
Extraordinaire.
Exactement.
Attendez, Alain Chapelle, on rappelle juste que c'est ce
quand
monstre
même.
Sacré de la nouvelle cuisine. Ouais. 3 étoiles à Mionnet, au nord de Lyon. Là aussi, on est dans l'Ain. Il s'était imprégné du terroir lyonnais, lui aussi. Et je pense que Kurnonski doit se retourner dans sa tombe. Quand on goûte ce gâteau de foie blond, c'est extraordinaire, non, Loïc?
Ah oui, une légèreté, notamment, qui est assez bluffante. Et la sauce, du coup?
Alors, la sauce, j'ai utilisé une sauce avec un petit peu de savagnin. Alors, aujourd'hui, la différence de la cuisine d'il y a peut-être 100 ans, c'est qu'on ne fait plus de réduction de crème sans fin. On fait plutôt avec, on utilise le collagène, justement, des os de la volaille, on fait des jus et qu'on crème un petit peu à la fin pour avoir une légèreté, une acidité plutôt qu'une réduction de crème.
Parce qu'on met pas gras inutile, en fait.
Exactement. Mmh. Et puis, je pense que c'est juste adapter une cuisine à ce qu'on a envie de manger aujourd'hui en gardant une gourmandise, mais un petit peu plus frais, quoi.
La bonne nouvelle, c'est que là, et les recettes, en fait, hein, de Marie-Victorine Manoy, se retrouve non seulement sur franceinter.fr à la page On va déguster, mais à la table de Haut Lyonnais. Alors,
exactement.
C'est le jour de Noël, vous êtes fermé?
Alors, nous sommes fermés, d'où ma présence, mais...
Et par contre, ce gâteau de foie blanc, il est bien au menu de votre bistrot.
Le gâteau est à la
bouchon.
Carte. Exactement, le gâteau est à la carte.
Tout le temps?
Il revient régulièrement quand même à la carte.
Rappelez-nous quand même l'adresse de Lyonnais, ce formidable bouchon.
32 rue Saint-Marc, c'est vers la Bourse, dans le 2e à Paris.
Pour toutes les lyonnaiseries.
Exactement.
Réalisées dans les règles de l'art. Eh bien écoutez, vous restez avec nous, évidemment, on va continuer à évoquer le prince des gastronomes. On va déguster, dresse aujourd'hui le portrait de Kurnonski.
À l'origine, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. À l'origine, une caresse qui te traverse. Un regard qui t'éclaire et te protège. À l'origine, quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie t'a choisi. Oh, la vie. Une peur qui s'est comme incrustée et qui tourne dans l'absurdité. Un coup mauvais sous ta peau tatouée. Une mémoire malsaine qui t'a contaminé. Et l'amour qui soudain se rétrécit. Et la flamme qui s'éteint, qui s'obscurcit. À l'origine, quelqu'un qui te lâche la main et qui te dit la vie. La vie t'a trahi. Oh, la vie t'a trahi. À l'origine, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine. Tout s'envole, un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. Alors tu retournes ton regard au-dedans. Et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée. Et c'est toi qui tend la main. La vie. La vie.
La vie, magnifique nouvelle chanson d'Arthur H sur France Inter.
Le secret d'une bonne santé ? La pratique raisonnée de tous les excès et l'abstention nonchalante de tous les sports. Kurnonski, 1872-1956.
On va déguster.
Et oui, Kurnonski avait aussi de l'esprit, hein. Des bons mots, des aphorismes, des jeux de mots aussi, parfois qui ont nourri en quelque sorte son capital sympathie, on dirait aujourd'hui, sa bonhomie auprès du grand public, Loïc Bienassi.
Clairement, c'est pas avec surtout de l'esprit, c'est avec d'abord de l'esprit, j'ai presque envie de dire, parce que, encore une fois, ce sont ses qualités de plume qui font tout. Sur le sport, par exemple, il y a un article qu'il avait rédigé qui s'appelait « Mes rapports avec le sport », et où il passait en revue les différents sports qu'il avait pu pratiquer. Il disait, par exemple, moi, à l'équitation, je tombe et je suis ce qu'on pourrait appeler un gastronome sans assiette. Donc, il a, comme ça, tout un tas de bons mots sur, je sais pas, la cuisine du Périgord, qui est sans beurre et sans reproche.
Ah, sans beurre, hein, attention, oui, parce qu'évidemment, c'est la graisse de canard qui préside dans le Périgord, et sans reproche.
Il a ce sens de la formule, on en a cité d'autres. Hein. De toute façon, quand on parle des gastronomates, quand c'est vraiment sa marque de fabrique. Il a fait ça toute sa vie. Quand j'expliquais qu'il était prisonnier un peu aussi de ce nom de Kurnonski, il disait oui, ce pseudonyme moitié latin, moitié slave, qu'on peut dire hybride et dont je suis prisonnier, on peut dire qu'il est hybride sur le coup. La bride sur le coup, l'hybride sur le coup.
Ah, pas mal. Voilà. Ah oui, oui, ça allait loin. Vous en avez une bonne, je crois, Jérôme Gagnez.
Ah, il y en a une très belle. J'aurais pas voulu être à la place de la maîtresse de maison en question. Si le potage avait été aussi chaud que le vin aussi vieux que la poularde, et la poularde aussi grasse que la maîtresse de maison, cela aurait été presque convenable.
Ah ouais, alors, c'était cinglant ça quand même.
C'est magnifique.
Alors, c'était cinglant, même si généralement, il est en fait plutôt bienveillant, en réalité, dans la plupart de ses commentaires. Je pense qu'il prend plaisir à dire du bien, alors parfois, dans sa France gastronomique, il y a un volume, je sais pas si je dois le dire, où sur le Maine et le Perche, il explique qu'il y a quand même pas grand chose à voir. Il ose le dire au début, mais globalement, dans tous les volumes, il dit un peu du bien de tout le monde. C'est quand même un discours de jouisseur qu'il tient quand il parle de gastronomie.
On lui prête aussi cette phrase célèbre qui a été utilisée depuis par de très nombreux critiques gastronomiques. Je ne vais pas au restaurant pour manger les rideaux.
Ça peut être de lui ou pas.
Une caresse d'ail revigore, un excès d'ail endort. Sur le plan culinaire, en tout cas, il a raison.
Oui, bah, c'est, clairement, c'est, encore une fois, c'est-à-dire que c'est ça qui fait sa force. C'est son sens de la formule. C'est ça qui a fait qu'il était aussi populaire. Il y avait peut-être des plus grands connaisseurs en cuisine que lui, dans l'entre-deux-guerres, incontestablement même, mais je pense que personne n'écrivait aussi bien que lui.
C'est la sensation.
Oui, en plus c'est ça, parler de ce qu'on mange, c'est aussi le retranscrire par les mots, et ça je pense que de manière vivante, personne ne savait le faire aussi bien que lui.
Deux réactions d'auditeurs. Un auditeur, ou une auditrice plus exactement, vous reproche, Jérôme Gagnès, de ne pas avoir cité les 5 vins blancs préférés de Kurnonski. Que se passe-t-il ?
Tout à fait, c'est un oubli de ma part que je répare immédiatement et je fais un acte de contrition.
Il avait donc, soyons clairs, un panthéon ?
Oui, il avait un panthéon. Alors, ça pourrait être le panthéon de beaucoup de monde, hein, pour tout vous dire, parce que ce qu'il a cité, c'est quand même pas de la petite bière. Il considérait qu'il y avait 5 très grands vins blancs. 5, c'est les 5 vins blancs les plus importants, alors on va les citer. Le Montrachet. C'est en Bourgogne, Côte de Beaune, hein, dans la Côte de Beaune, c'est un vin blanc, issu d'une parcelle qui fait 8 hectares. Ensuite, vous avez Château Chalon, qui est dans le Jura, qui est un vin jaune, mais uniquement produit sur le piton de Rocheux de Château Chalon. Il y avait le Château Grillet, qui est une petite enclave de 3 hectares et demi dans Condrieu, donc Rhône Nord, juste au sud de Lyon. Il y avait le Château d'Yquem à Sauternes. Excusez du peu, et il y avait enfin Savenière, raison pour laquelle j'ai parlé de Savenière, parce qu'il y avait le Savenière, et en particulier la coulée de Séran, qui est comme ça un magnifique vignoble de 7 hectares exposé plein sud, qui est une splendeur absolue et qui fait un vin exceptionnel.
Le top 5 des vins blancs, selon Kurnonski. Et puis une question pour vous, Marie-Victorine Manoa, de nombreux auditeurs nous demandent s'il est possible de réaliser votre recette, qui visiblement va avoir beaucoup de succès auprès de nos auditeurs, votre recette de gâteau de foie blond, sans foie blond, mais avec des foies de volaille. On rappelle que le foie blond, c'est le foie un peu gras de la volaille de Bresse, qui est pas forcément très bon marché, qu'on ne trouve pas tout le temps.
Oui, qui est plutôt compliqué à trouver.
Qu'est-ce que ça donnerait ce gâteau avec du foie de volaille ?
On peut absolument utiliser des foies de volaille classiques. J'en mettrai peut-être moins que la recette que je vais mettre sur le site, parce que c'est un petit peu plus fort qu'un foie qui a été engraissé, donc plus doux, on va dire. Donc je propose d'en mettre un petit peu moins dans la recette, mais c'est complètement faisable, oui, bien sûr.
Très bien, merci beaucoup Marie-Victorine. La cuisine selon Kurnonski, Loïc Bianessi, j'aimerais vous faire réagir sur une autre archive sonore. On a dit qu'il était épris de simplicité. On a dit qu'évidemment, il avait contribué à décloisonner, à faire connaître les terroirs, même s'il n'employait pas ce mot, mais on va dire les cuisines des provinces de France. La cuisine d'après-guerre, c'est un autre extrait de La Joie de Vivre, cette émission de 1954 diffusée sur la RTF. Voici ce qu'il en dit.
Je voudrais dire que jamais on a mieux mangé en France que depuis la fin de la guerre, parce que la guerre a ramené les chefs à être obligés de faire des choses simples. On ne pouvait pas fourrer des truffes et du foie gras partout. De mon temps, on foutait des truffes et du foie gras partout. On mettait du foie gras, du cognac, du porto. On remettait du porto, du foie gras, du cognac. Et ça faisait des choses lourdes et un peu encombrantes.
Non mais attendez, c'était un vrai one-man show à la radio. Il était très connu et très apprécié à son époque.
Oui, alors là, il est donc à la fin de sa vie. Il est sans doute moins connu quand même. Il est pas à l'âge d'or, en fait, qui était l'entre-deux-guerres. Mais là, donc, c'est pour ses 80 ans. Donc, il y avait eu tout un tas d'événements, notamment chez des restaurateurs qui l'avaient rendu hommage. Donc, c'était quand même, il continuait de publier. Il a fondé aussi, en 1947, la revue de Cuisine et Vins de France.
Et oui.
Enfin, qui s'appelait Cuisine de France dans un premier temps, et puis à partir du 1er janvier 48.
Sacré fait d'armes. Ouais.
Exactement. Donc, jusqu'au bout, quand même, il était actif, hein, clairement.
Magazine qui, d'ailleurs, existe toujours.
Et qui reste une référence.
Tout à fait. Ouais. Groupe Marie-Claire.
Voilà. Donc, c'est toujours quelqu'un qui, sans doute n'est plus à la pointe, mais qui continue de publier, de beaucoup publier, et qui reste connu.
On va faire une petite parenthèse, enchantée, j'espère, puisque notre chroniqueuse Elvira Masson nous entraîne dans un musée parisien pour une exposition exceptionnelle.
On va déguster. Sur France Inter.
Voilà, moi, je vous emmène non pas à Lyon ni en Anjou, je ne suis pas allée bien loin. Je suis allée au musée du Louvre, visiter l'exposition « Les choses ». Une exposition que le musée consacre à la manière dont les artistes se sont intéressés à la nature morte, autrement dit à la représentation des objets qui les entourent. Alors depuis l'art pariétal jusqu'aux créations les plus contemporaines, c'est une démonstration époustouflante du lien intime que nous avons avec les choses, qui sont donc bien plus que des natures mortes, un genre qui a été longtemps peu considéré si on le compare avec les scènes historiques, religieuses, voire au paysage, comme nous le rappelle Laurence Bertrand d'Orléac, commissaire de l'exposition.
Depuis le début, depuis qu'on discute de l'histoire de l'art, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, on trouvait ce genre tout à fait mineur et voire un peu sordide, un peu et avec un certain mépris jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Mais en réalité, du coup, évidemment, personne ne s'y intéressant énormément. Les artistes sont très libres et les femmes aussi sont particulièrement libres puisqu'elles n'ont pas le droit de recopier du modèle vivant et elles n'ont pas le droit d'entrer dans les académies. La nature morte est un lieu qu'elles ont investi volontiers. Il y a de très grandes artistes femmes de nature morte.
Vous m'emmenez en voir une ?
Oui, peut-être qu'on va aller voir tout simplement cette très belle coupe de cerises de Louise Moyon. Et elle représente des choses à la fois en majesté, une coupe donc bleue en porcelaine avec des cerises tout simplement à l'intérieur de cette coupe et puis posée sur le bord de la table, un melon, mais un melon déjà découpé, donc à la fois très sensuel et qui montre le temps qui passe, disons, et puis un rameau de prune. C'est très réservé, mais il y a une forme de sensualité quand même, mais de sensualité retenue, disons. C'est très beau, très émouvant, enfin c'est une scène vraiment de la vie quotidienne, là.
C'est très beau, mais c'est vrai qu'il y a une incongruité dans le fait que le melon soit déjà découpé. On s'imagine peut-être que quelqu'un a mordu dans la part de melon qui est sur la table et ça ajoute effectivement quelque chose comme ça d'assez intime.
Et c'est souvent comme ça dans la nature morte. Il y a un détail qui dit qu'en fait, il y a un absent et l'absent, c'est nous. L'absent, c'est celui qui va manger le melon ou qu'il a déjà commencé, qu'il a découpé. Et ça, c'est très important parce qu'à l'intérieur de ces choses, finalement, il y a toujours de l'humain, mais de l'humain qui n'est pas représenté.
Alors juste à côté du tableau de Louise Moyon, on a une œuvre de Cotane, donc on est au tout début du XVIIe siècle. C'est un maître espagnol qui est spécialisé dans une discipline dont vous allez me dire le nom.
La nature morte, mais en espagnol, bodegón. Bodegón, c'est vraiment lié aux choses qu'on mange, c'est très sensuel et en même temps c'est très rigoureux. Cotane, c'est un moine et c'est un moine jusque dans la peinture. C'est très très simple. Ce sont des citrons qui pendent, un chou qui pend, des carottes qui pendent et poser un cardon, une orange et un chou à nouveau et une tranche d'orange. Toujours montrer le temps qui passe sur les choses.
Avec quelque chose à la fois de très moderne, dans la manière dont les légumes sont accrochés par une ficelle, devant un fond noir, qui est presque une abstraction.
Oui, pour mettre en valeur les choses, le fond est très neutre, vous avez raison. Il y a aussi quand même un petit air métaphysique. Les Espagnols sont très très forts. C'est une œuvre donc du début du XVIIe siècle, hein, 1602, et c'est un des chefs-d'œuvre évidemment de la peinture.
Superbe tableau de Cotagne, signe de l'importance de la représentation des fruits et des légumes dans l'histoire de l'art, avec un légume en particulier qui a beaucoup inspiré les peintres au fil des siècles. Alors on est un peu à contre-saison, il faut dire.
Oui, peut-être les asperges, non ? Oui, donc Corté représente ces très belles asperges sur un fond noir, un peu comme Cotane d'une certaine façon, et sur un plateau donc foncé pour bien mettre en valeur la blancheur de ces asperges. Alors ce qui est intéressant, c'est que Manet, donc deux siècles plus tard, va représenter lui aussi une botte d'asperges. Si vous voulez, c'est une peinture, autant Corté insistait sur la dextérité, sur la lissité, autant les asperges de Manet sont tout on les sent pratiquement, avec tous ces mauves, ces jaunes, ces différences de vert. C'est très très subtil et en même temps extrêmement sensuel. Enfin, c'est beaucoup plus sensuel, je dirais, que les asperges de Corté au XVIIe siècle, qui sont plutôt évidemment plus ascétiques, disons.
C'est amusant, il y a comme une incongruité de cette asperge toute seule qui s'est comme échappée de sa botte.
Oui, c'est vrai. Alors, et elle est même presque, si je puis me permettre, un peu obscène, parce qu'elle retombe, en fait, c'est le bout de l'asperge qui retombe, et on sait bien quand même la portée symbolique des asperges, surtout que cette botte est plutôt dirigée vers le haut, si je puis dire, et cette asperge qui retombe donc par-dessus le plateau, donc c'est presque amusant, et je pense qu'il y a une dimension humoristique peut-être chez cet artiste. Il ne faut jamais négliger la dimension humoristique.
Même chez les peintres flamands ?
Surtout, à mon avis, chez les peintres flamands, justement.
Encore une preuve que la nature morte est très vivante.
Oh, ça c'est certain, et elle est pleine de symboles qui ne sont pas seulement des symboles religieux et canoniques, mais qui sont également des symboles très souvent sexuels, il faut bien le dire, et ça à toutes les époques.
Qu'est-ce qui vous touche, vous, personnellement ? Qu'est-ce qui vous émeut dans la nature morte ou de la représentation des choses ?
Ce que j'aime, c'est ce qui reste, en fait, des bonheurs et des tristesses de la vie. Enfin, c'est ce qui reste de la vie des individus et des sociétés quand ils disparaissent. Mais c'est aussi qu'à travers des choses minuscules, on peut raconter des choses importantes. On peut philosopher, on peut se révolter, on peut s'émouvoir. On peut tout dire à partir de petites choses, de rien du tout.
Tout dire à partir de petites choses, de rien du tout. La beauté du monde ordinaire et sa violence aussi. Il y a une salle absolument spectaculaire qui s'appelle La Bête humaine, consacrée à l'utilisation de l'image des animaux morts par les peintres pour incarner la souffrance. Il y a aussi un point de vue critique à l'endroit de la société d'abondance, qu'elle soit celle du XVIIe siècle ou d'aujourd'hui. Une immense matière à émotion, mais aussi à réflexion. Voilà ce que nous offre cette expérience vertigineuse, composée de 170 peintures et sculptures en provenance de 70 musées. Vous avez encore un mois pour y aller, c'est-à-dire jusqu'au 23 janvier. C'est les choses au musée du Louvre. Allez-y, vraiment.
La nature morte, c'est vraiment, ça nous fait envie. Puis vous nous avez fait saliver avec des produits hors saison aussi. On parle de cerises.
Les cerises, les asperges, tout va bien.
Et c'est ça le...
Mais Kurnonski faisait bien truffes noires et asperges, non ? Voilà, c'est un hommage à Kurnonski en quelque sorte.
On attendra évidemment la saison des asperges. Au printemps prochain, vous aimez l'asperge, Marie-Victorine Manoa ?
J'aime beaucoup l'asperge, surtout la blanche. Donc j'ai aimé la...
celle du tableau de Manet.
Ouais, je trouve ça très subtil aussi. Donc.
Allez, il nous reste une toute petite poignée de minutes pour évoquer un dernier aspect de Kurnonski, Loïc Bienassi, notamment à travers la description de ce qu'il appelait les quatre cuisines. Et ça, c'est intéressant.
Ah oui, c'est intéressant parce que ce découpage permet de bien penser la cuisine française, je trouvais. Il distingue la grande cuisine, celle des grands cuisiniers, des recettes complexes, celle de Carême, Escoffier et Nignon, donc celle qui est tout en délicatesse, tout en technique. La cuisine bourgeoise, qui est soignée, mijotée, celle domestique, faite de patience. La cuisine régionale, et lui, il a été le grand chantre, et même l'un des constructeurs, j'ai presque envie de dire, des cuisines régionales, c'est-à-dire en fait celle des auberges, surtout, et non pas une cuisine domestique.
Donc les auberges qui servaient vraiment ces ce qu'on dirait aujourd'hui spécialité de terroir.
Exactement,
en fait,
et qui les ont construites en fait. Hein. Ce serait tout un sujet à aborder. Et donc, où on se rendait en automobile, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Et la cuisine paysanne.
Ah.
La cuisine paysanne, justement, alors que souvent on mêlerait cuisine régionale et cuisine paysanne, lui opère un distinguo. Parfois, il parle aussi de cuisine improvisée. C'est la cuisine faite très simple, faite de rien, de choses qu'on récupère, une soupe au chou et un bout de lard. Et il rajoute aussi une cinquième cuisine, la mauvaise, comme il dit.
Non,
mais là,
non,
il n'a pas envie d'en parler.
Non, vous êtes sérieux ?
Oui, tout à fait, oui.
Voilà, il avait l'humour, hein, Kurnonski, terriblement actuel. Il y a Martine de Trouville, dans le Calvados, qui vous fait un reproche, Loïc, qui vous dit « Votre invité a oublié de dire que on lui doit également la popularité de la tarte tatin. »
Oui, alors, dans l'ouvrage qui s'appelle « Les trésors gastronomiques de France » de 1933, il recense la tarte tatin parmi les spécialités de Sologne. Mais le vrai succès de la tarte tatin, parisien et national, viendra quand même après, notamment lorsqu'elle figurera à partir des années 50, si je ne dis pas de bêtises, sur la carte du Maxim's.
C'est ça, mais c'est lui qui aurait inventé un peu ce storytelling des sœurs tatin.
Non. Enfin, le storytelling vient surtout à partir de la fin des années 70. Cette histoire de tarte renversée par accident, c'est notamment la confrérie, la tarte tatin, qui
d'accord. Donc Martine de Trouville n'a pas toujours raison.
Non.
Bon, eh ben écoutez, joyeux Noël Martine, hein, Martine Rabillet pour l'hiver, c'est ça. Merci beaucoup Loïc Bienassi d'avoir éclairé de vos lumières ce personnage qui ressort un peu des oubliettes grâce à vous, et c'est une excellente nouvelle. Un grand merci Marie-Victorine Manoa.
Merci.
Quand est-ce que réouvre au Lyonnais ?
Nous réouvrons le 4 janvier.
Le 4 janvier,
absolument.
Pour une belle cuisine lyonnaise. On peut citer la quenelle, évidemment, la cervelle de canut.
Il y a toujours une quenelle, il y a toujours un abat. Voilà, on n'a que des poissons de rivière, on a de la bonne cuisine mijotée.
Et Kurnonski aurait aimé, j'en suis sûr, s'attabler chez vous pour déguster notamment ce fameux gâteau de foie blond. La
exactement.
Semaine prochaine, pour notre émission du 1er janvier 2023, une grande partie de la bande dont on va déguster se réunit dans notre studio pour dresser le bilan gourmand de 2022. Livre coup de cœur, bonnes adresses, belles choses à boire et à grignoter. On va faire le plein de bons plans.
Joyeuses fêtes à tout le monde.
On trinque avec le Savenière de Jérôme Gagnez. Toute l'équipe dont va déguster se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux et chaleureux Noël à tous. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.